Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données, ici et maintenant, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble. Le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. Bienvenue à toutes et à tous à l'Oratoire du Louvre, à l'occasion de ce culte dominical. Bienvenue dans ce lieu de prière, que vous soyez des habitués de ce lieu ou que vous veniez ce matin peut-être pour la première fois. Vous êtes ici, chez vous. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le site internet ou celui des réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Bienvenue aux enfants et aux jeunes de l'éducation biblique, ainsi qu'à leurs familles et les moniteurs et les monitrices. Et merci à Sarah Kim, à l'orgue, et au chœur de l'oratoire sous la direction d'Alexandre Korovitch, qui accompagne aujourd'hui musicalement ce culte. Nous sommes ensemble pour vivre le moment où Dieu vient à notre rencontre, et notre présence dans ce temple est notre réponse à son amour. Alors c'est ensemble que nous plaçons nos vies devant lui. Prions. Éternel Dieu de la vie, nous te rendons grâce pour ce jour et cette heure mis à part dans notre vie. Tu nous invites à faire maintenant une pause sous ton regard au milieu de nos agitations diverses. Tu nous proposes de vivre ici et maintenant un temps de paix, un temps d'écoute, de prière et de louange. Un temps où nous pouvons nous ressourcer à ta grâce et à ton amour. Tu nous invites simplement à vivre un temps où, par ton esprit, nous apprenons à nous retrouver les uns avec les autres, en communion avec Jésus-Christ. Louange à toi. Seigneur, ton nom est un nom magnifique, c'est par ce répond que nous commencerons ce culte. Avec allégresse vers Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez un chant, faisons résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la pleine lune pour ce jour de fête. J'entends un langage qui m'est inconnu et qui me dit « J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille ». Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu au cœur de l'orage. Vous avez certainement reconnu un extrait du psaume 81 que nous allons chanter maintenant en prenant le psautier français, psaume 81, les strophes 1, 3 et 5.
Délivrance, tu m'as appelé dans
Prenez place. Amis, frères et sœurs, écoutons maintenant la volonté de Dieu à notre égard, pour aujourd'hui, mais aussi pour les jours qui viennent. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car toute loi se résume dans ce seul commandement: tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Prouvez, Seigneur, ta justice, le prince de la paix, et parmi nous.
Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. Prions. Je me place devant toi, Seigneur, et j'entre en prière comme j'entre dans un espace clos, mystérieux et secret, où tout se tamise. Moment de silence dans le cours de mes pensées. Temps d'arrêt dans le mouvement de mes sentiments. Où se mêlent tour à tour l'amour, l'indifférence, le découragement, la solitude. Je ferme les yeux pour mieux les ouvrir sur les autres et sur moi-même. Et je cherche un peu de lumière sur ce qui m'inquiète ou me fait de l'ombre. Au détour de ce cheminement intérieur qui ressemble parfois à un labyrinthe, de façon imprévue, tu es devant moi. Avec patience et sagesse, tu me montres l'issue possible, un autrement de la pensée, un ailleurs insoupçonné. Et tu tiens compte de ma faiblesse, de mes petits pas, de mon indécision, de mes erreurs, et dans mes hésitations, tu vas jusqu'à approuver mes choix. Comme tu es bon d'avoir pris l'initiative d'être venu à ce rendez-vous, alors que je n'osais croire que tu viendrais. Ma prière devient délivrance et moment de paix. Loué sois-tu. Amen.
Tel que je suis, bien vacillant, emploi au doute à chaque instant, plutôt de crainte, de l'agneau de Dieu, je viens.
Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël, déclare le Seigneur. J'inscrirai mes instructions non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun d'eux n'aura besoin de s'adresser à ses compagnons et ses frères pour les enseigner à me connaître, car tous me connaîtront, déclare le Seigneur, du plus petit jusqu'au plus grand. En effet, je pardonnerai leurs torts et je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Nous restons debout pour confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen. À Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Prenez place. Et j'invite les enfants de l'éducation biblique à continuer leur formation avec Béatrice et les monitrices et moniteurs qui vont aller maintenant à la maison presbytérale et je vous retrouverai tout à l'heure ultérieurement. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de relire avec vous un extrait du second livre de Samuel au chapitre 12. Cet extrait s'intitule « L'oracle de Nathan » ou « La prophétie de Nathan ». Et je lirai simplement les versets 1 à 15. le Seigneur envoya Nathan à David. Il alla le trouver et lui dit « Il y avait deux hommes dans une ville, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait force moutons et bœufs. Le pauvre n'avait rien du tout sauf une agnelle, une seule petite qu'il avait achetée et il la nourrissait. Elle grandissait chez lui en même temps que ses enfants. Elle mangeait de sa pitance, elle buvait à son bol, elle couchait dans ses bras, elle était pour lui comme une fille. Un hôte arriva chez le riche et il n'eut pas le cœur de prendre de ses moutons et de ses bœufs pour apprêter le repas du voyageur venu chez lui. Il prit l'agnelle du pauvre et l'apprêta pour l'homme venu chez lui. David entra dans une violente colère contre cet homme et dit à Nathan « Par la vie du Seigneur, il mérite la mort, l'homme qui a fait cela. Et de l'agnelle, il donnera compensation au quadruple pour avoir fait cela et pour avoir manqué de cœur. » Nathan dit à David, « Cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai oint comme roi d'Israël et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton maître et j'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda et si c'est trop peu, je veux y ajouter autant. » Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qui lui déplaît? Tu as frappé de l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui-même tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Eh bien, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais faire surgir ton malheur de ta propre maison. Je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à un autre. Il couchera avec tes femmes sous les yeux de ce soleil. Car toi, tu as agi en secret, mais moi, je ferai cela devant tout Israël et devant le soleil. » David dit alors à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Nathan dit à David, « Le Seigneur, de son côté, a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Mais puisque dans cette affaire, tu as gravement outragé le Seigneur, ou plutôt ses ennemis, le fils qui t'est né, lui, mourra. » Et Nathan s'en alla chez lui. Dans le Louange et Prière au cantique numéro 178, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3, qu'aujourd'hui toute la terre. Je vous invite à vous lever. prenez place. Prions. Éternel Dieu de la vie, chacun à notre manière, nous te cherchons. Donne-nous de découvrir ta parole comme Agar aperçoit un puits alors qu'elle a soif dans le désert. Donne-nous de ramasser ta parole comme ton peuple recueille la manne pour se nourrir dans son exode. Donne-nous de recevoir ta parole comme Élie découvre une galette et une cruche à son chevet alors qu'il est épuisé dans sa fuite. Donne-nous de méditer ta parole comme Marie se souvient de tout ce qu'elle a vu et entendu et relie toutes ces choses dans son cœur. Donne-nous d'attendre ta parole comme un mendiant lève les yeux et t'implore dans l'attente d'une guérison. Amen. Amis, frères et sœurs, l'idée de prendre ce texte aujourd'hui est née de la dernière rencontre du groupe Paroles d'amour que ma consœur Béatrice Cléromazir et moi-même avons lancé cette année. Nous nous sommes penchés d'abord sur le texte du Cantique des Cantiques qui célèbre le désir amoureux sous toutes ses formes, où l'homme et la femme prennent la parole à tour de rôle et à part égale. Puis nous nous sommes attardés sur un autre texte, disons, plus inconvenant, celui de la passion amoureuse du roi David pour Bathsabée, femme d'Uri. Certaines passions finissent par aveugler. Alors faisons tout d'abord un tout petit détour par l'évangile de Matthieu, dans la généalogie de Jésus-Christ qui ouvre le premier chapitre de cet évangile. Généalogie qui pourrait sembler rébarbative à première vue, il y a une succession impressionnante de noms d'hommes. 42 générations et seulement 5 noms de femmes apparaissent. La première, Tamar, une veuve qui se fait passer pour une prostituée auprès de son beau-père pour avoir une descendance. Ensuite, Rahab, la prostituée cananéenne de Jéricho qui cache 2 espions israélites envoyés par Josué, puis Ruth, l'étrangère du pays de Moab, la femme d'Uri, une épouse adultère, et Marie, disons, une fille mère. De quoi nous laisser pantois. Mais c'est la femme d'Uri qui retiendra notre attention. Et si elle ne porte pas de prénom dans l'évangile de Matthieu, elle s'appelle Bathsabée, dans le prénom francisé, vous me permettrez, dans le livre de Samuel. On sait qu'elle est belle, qu'elle est mariée à Uri, soldat dans l'armée du roi David. Et pourquoi cette femme au comportement conjugal peu recommandable a-t-elle autant d'importance? Parce qu'au bout du compte, elle deviendra l'épouse du roi David et la maman de Salomon. L'histoire d'amour entre David et Bathsabée commence mal. Et c'est ce qui est rappelé sous forme de parabole par le prophète Nathan, qui accompagne depuis peu le roi David. Au tout début de l'ascension de David, c'est le prophète Samuel qui est aux côtés du roi David. Et sa vie, tellement riche, nécessite finalement 2 tomes. Dans le premier tome sont racontés les récits qui concernent l'ascension royale de David et dans le deuxième tome, les récits concernant sa succession. Le prophète Nathan arrive au milieu de ces deux tomes. Il est le conseiller du roi David et il joue auprès de lui un rôle important. Il intervient dans trois circonstances majeures. La première, lorsque David lui fait part de son intention de bâtir une maison pour l'Éternel, qui contiendra l'Arche d'Alliance. Nathan encourage David, tout en lui précisant que ce ne sera pas lui, mais son fils, son successeur, qui bâtira le temple. Nathan remplit un rôle primordial auprès de David, en particulier au moment de son adultère avec Bathsabée, et surtout au moment du meurtre d'Urie, et c'est le chapitre 12 que nous venons de lire, en tout cas pour le début. Nathan jouera encore un autre rôle pour défendre les droits de succession de Salomon au livre des rois. Et tout au long des livres de Samuel, il est rappelé deux choses importantes. Le roi est choisi par Dieu. Il est loin du Seigneur, L'O-I-N-T. Oint qui vient du verbe oindre. Mettre de l'huile sur le front de quelqu'un, d'une personne, pour dire qu'elle est choisie par Dieu. Et aussi grand que soit le roi, ce qu'il est ne doit pas lui faire oublier qu'il est choisi par Dieu. Et ce qu'il fait ou ce qu'il dit découle de ce choix. Le prophète Nathan rend visite au roi David et tous deux ont un entretien personnel. En fait, Nathan doit dire les quatre vérités à David. Mais comme le sujet est particulièrement délicat, Nathan va user de sa diplomatie de prophète. Au lieu d'entrer dans le vif du sujet, au risque de se fâcher avec David, Nathan va lui raconter une histoire, une parabole. Et il va prendre un exemple cher au roi David, dont on se souvient qu'il était berger avant d'être choisi comme roi d'Israël. Et donc Nathan raconte à David une histoire de berger et d'agneau, enfin une ânielle très exactement. Et il était une fois deux hommes dans une ville, l'un riche et l'autre pauvre, et David est attentif. Nathan ne parle jamais pour ne rien dire. Et le pauvre avait une seule ânielle qu'il nourrissait, il s'occupait comme si c'était sa propre fille. L'ânielle était tout proche de cet homme, et voilà qu'un invité s'annonce, c'est cet homme riche qui n'a pas du tout envie de sacrifier une de ses bêtes pour préparer à manger pour le voyageur. Et l'homme riche, sans vergogne, va chercher l'ânielle de l'homme pauvre et la prépare comme repas à son voyageur. C'est cette histoire qui touche David. Et sans qu'on lui demande son avis, David prend position. Il entre dans cette grande colère et prononce une sentence lourde à l'égard de l'homme riche de l'histoire de Nathan. Il mérite la mort. Il doit donner une compensation au quadruple à l'homme pauvre qui est privé maintenant de son ânielle. Et il ajoute qu'il doit payer parce qu'il a manqué de cœur. Et c'est seulement à ce moment-là que Nathan parle en vérité à David. Et que cet homme, en fait, c'est lui. Nathan fait revenir David à lui. Il lui fait prendre conscience de sa faute. Mais d'abord, il lui rappelle comment il a été choisi comme roi par Dieu contre toute attente. Il lui rappelle comment Dieu l'a béni en l'installant sur le trône d'Israël. Il lui montre comment David, aveuglé non seulement par la beauté de Bathsabée, mais également par son pouvoir, s'est détourné de Dieu en n'écoutant que son propre désir et en cédant à la tentation. C'est un récit d'une passion humaine parmi d'autres. Et la Bible est remplie de passions humaines, amoureuses ou guerrières. La Bible fait écho à de nombreuses situations que les hommes connaissent aujourd'hui encore. Il n'y a qu'à se référer à l'histoire des monarques en général, Ils ont tous, de près ou de loin, un faible pour les femmes. Et tout cela a quelque chose à voir avec la fascination du pouvoir. Et la Bible n'est pas étrangère à cela, parce qu'elle raconte des témoignages de croyants qui ont vécu des situations contradictoires, des situations où ils ont été submergés par la haine, la violence, la vengeance, la cupidité, le pouvoir, mais aussi par l'amour et le désir amoureux, et même la mort. La Bible ne raconte pas de vérité imaginaire, elle ne proclame pas des dogmes qu'il faudrait absolument croire sans discuter. Au contraire, elle raconte notre humanité, avec des situations d'hommes et de femmes plus ou moins à la recherche de Dieu, et qui plongent dans le doute ou le reniement ou l'oubli de la loi, et même l'oubli de son prochain, comme ici par le rappel du meurtre d'un innocent, Uri le Hittite. Les récits bibliques sont donnés aux êtres humains pour être discutés, approfondis et même triturés pour en extraire la substantifique moelle, comme ce petit mot passé inaperçu à la première lecture, ou cette image passée sous silence, ou cette situation qui scandalise, mais par laquelle Dieu se révèle contre toute attente, dans le seul but que les hommes qui le cherchent ne soient pas comme des marionnettes dont ils tireraient les ficelles. Et la question reste toujours la même. Quelle est la volonté de Dieu pour l'être humain? Par quel chemin les fait-il passer pour que sa parole s'enracine dans leur vie? Parfois, il les fait passer par des chemins qui les éloignent de lui pour mieux revenir à lui. C'est peut-être cela que ce récit veut nous montrer aujourd'hui. Nathan dit les quatre vérités à David et lui rappelle comment il est devenu l'amant d'une femme mariée. Le plus grave dans tout ça, c'est que Bethsabée, en tout cas dans la Bible, n'a pas la parole sur ce qui lui arrive. Mais elle a dû se trouver, elle aussi, devant un sacré cas de conscience. Comment résister au roi David, qui est tout-puissant et qui décide de tout? Bethsabée n'a pas son mot à dire. Sa vie dépend entièrement des hommes. Devenir la maîtresse du roi, c'est devenir une femme adultère, c'est sans doute peut-être ensuite être rejetée quand le roi ne voudra plus d'elle. Chassée par le roi, elle ne pourra rentrer ni chez son mari, ni chez ses parents. Sa punition sera alors peut-être d'être lapidée, c'est-à-dire tuée à coups de pierre par les représentants de la loi. Mais Bethsabée se retrouve enceinte. Et le roi David ne rejette pas Bethsabée, mais il se débarrasse de son mari. Pourtant, Uri est décrit dans le texte biblique comme un homme intègre, exemplaire, fidèle à son roi, un homme juste sur qui David peut vraiment compter. David s'en débarrasse tout de même, sans état d'âme. Oh, il y en a qui font de la prison pour moins que ça. Alors bien sûr, David ne tue pas le mari de Bethsabée de ses propres mains, mais il s'engage, il s'arrange pour que Uri se trouve en première ligne dans les combats. Alors Bethsabée se retrouve veuve et David l'épouse. L'histoire continue encore et dans ce récit, il y a de quoi frémir puisque Nathan annonce à David que c'est l'enfant attendu par Bethsabée qui mourra. David est puni pour son adultère dans la mort de cet enfant. Alors il faut savoir qu'à l'époque où ce récit a été écrit, ceux qui l'ont écrit croyaient très fort que la faute devait être puni. Et ici, il y avait un lien entre la faute de David et la mort de l'enfant. Et c'est toujours de la faute de David dont on parle, jamais de la faute de Bethsabée. L'enfant va naître et pendant qu'il est encore en vie, David jeûne. Il fait pénitence, il tente de faire fléchir Dieu dans sa sentence. David reconnaît sa faute, il se sent coupable. Et c'est exactement ce qui est contenu dans le psaume 51. Cette prière du roi David, expiant sa faute. « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bonté. Selon ta bonté, efface ma transgression. Lave-moi complètement de ma faute. Purifie-moi de mon péché crée en moi un cœur pur. David confesse son péché. Et c'est intentionnellement que je mets le mot péché au singulier. Le péché, c'est tout ce que nous faisons dans notre vie et qui nous coupe de notre relation à Dieu. Et David, en tombant amoureux de Bathsabée, une femme mariée, en oublie sa relation à Dieu. Il n'écoute que sa passion, le faisant agir jusqu'à tuer Uri dans un excès de toute puissance. Et c'est pour cela qu'il se retrouve dans une situation impossible et que le mal s'enchaîne. Et pour une fois, la prière de David à Dieu n'est pas entendue. Et l'enfant mourra tout de même. Selon la tradition juive, quand son enfant meurt, Bathsabée ne veut plus vivre, elle ne veut plus s'alimenter, et c'est Nathan qui viendra lui dire qu'après le terrible hiver qu'elle est en train de traverser, un printemps de promesses va se réaliser. En tout cas, nous pouvons remarquer que face à la réalité de la mort de son enfant, David ne marchande plus avec Dieu. Il est dans l'acceptation, accepter ce qui lui arrive en revenant à la conscience de lui-même, et il s'en remet à nouveau totalement à Dieu. Il compte de nouveau sur lui. Le texte nous a dit tout à l'heure, par la voix du prophète Nathan, Dieu est passé par-dessus la faute de David. La vie peut reprendre. David reste uni à Bathsabée, qui mettra au monde Salomon. Que retenir de ce texte? Que retenir sinon que la promesse de Dieu ne dépend pas de la fidélité de ceux auxquels elle s'adresse, mais elle dépend de la volonté de Dieu de vivre avec les hommes et les femmes de toutes les générations, de vivre avec eux des recommencements. Alors, me direz-vous, il y a tout de même la mort de cet enfant, totalement comprise comme la conséquence du péché de David. Est-ce juste? Est-ce injuste? Est-ce que Dieu veut vraiment cela? Si oui, alors quel Dieu est-ce vraiment? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin, voir les choses autrement? C'est tout le défi d'un récit biblique comme celui-ci. Aujourd'hui, nous ne pensons plus Dieu de cette façon, du moins je l'espère. Si ce récit nous donne une notion de Dieu à une certaine époque, qui était celle de Samuel ou celle des rois, la question demeure, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Par quel chemin nous fait-il passer pour que sa parole s'enracine à nouveau dans notre vie et devienne vraiment une parole vivante? Quelles épreuves parfois faut-il supporter pour que sa présence se réveille et nous suscite à nouveau? Et contre toute attente, nous pouvons passer par des chemins d'expérience qui nous éloignent de sa volonté, peut-être pour que nous ne soyons pas prisonniers de ses commandements d'une façon implacable ou catégorique ou sans nuance, mais plutôt pour nous ouvrir à des chemins de vie où nous pourrons marcher libres et responsables. Alors ce récit donne de quoi réfléchir sur nous-mêmes. Il fait revenir à soi. Il conduit peut-être à une relecture de nos existences où nous pouvons repasser dans notre cœur les moments de nos vies où nous avons été d'une façon ou d'une autre aveuglés par une passion, quelle qu'elle soit, qui nous a emmenés hors de nous-mêmes. Et une fois que nous en avons pris conscience, nous a conduits à nouveau devant Dieu. Sur ces chemins de nouveaux recommencements, constamment et courageusement revenir à soi pour revenir à Dieu, eh bien cela dépasse la morale. Il s'agit ici de retrouver et d'accueillir pour notre vie quotidienne ce salut inlassablement mystérieux de chacun, chacune, par l'amour finalement inconditionnel de Dieu, apportée à des hommes et des femmes qui ne prétendaient à aucun mérite dans l'ordre de la morale. C'est toujours d'actualité, c'est ce que nous annonçons, et cet inattendu continue d'ouvrir un avenir pour chacun et chacune de nous. Amen. Dans le louange et prière, nous prendrons maintenant le cantique numéro 240. De ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever.
Sous
Prenez place. Je cède la parole maintenant à Aurore Saglio, la présidente du Conseil presbytéral de notre Église.
Merci Agnès. Merci Gérard d'avoir allumé le micro. Bonjour à tous. Quelques annonces. Cette semaine, alors il y a plein de choses qui se passent. Encore une fois, si vous n'êtes pas inscrit, pas encore inscrit à la... aux nouvelles de l'oratoire que nous envoyons tous les vendredis matin ou vendredi après-midi par email, signalez-vous aux conseillers qui sont là avec un badge et on vous inscrira parce que vous avez vraiment tout le programme de la semaine que nous sortons le vendredi. À retenir, mardi soir, je peux regarder qui est dans la salle puisque tous ceux qui sont dans la salle font quelque chose cette semaine, ou quasiment, ou vont le faire. Mardi soir, nous avons une séance théophile avec Jean-Pierre Clairaut qui est là, philosophe émérite, professeur émérite de philosophie, sur le sujet de l'opinion droite. C'est pas l'opinion à droite, c'est l'opinion droite. Hein, c'est pour ceux qui se souviennent des cours de Platon, vous pouvez les relire avant de venir. C'est mardi à 20h, c'est passionnant, c'est de 20h à 22h. Et Jean-Pierre Clairaut anime cette séance qu'on a appelée Théophile avec Béatrice Clairaut-Mazière, notre pasteur. Donc, mardi, 20h, 22h. Je me tourne. Donc là, Jean-Pierre Clairaut est là. Je me tourne à gauche. Nous avons Gustave, si tu veux te lever, qui anime avec les pasteurs également, avec Agnès, je crois, un dîner sur la folie. Donc nous passons de l'opinion droite à la folie pour le groupe des jeunes, mercredi soir. Et vous avez des conseillers de l'entraide qui offrent à ce groupe de jeunes un repas. Et je sais qu'il y a déjà au moins 2 ou 3 cuisiniers de prévus pour mercredi soir. Donc vous serez bien nourris. Jeudi soir, le concert de la liberté. C'est un concert qui est organisé par l'association des amis de la Fondation de la mémoire pour la déportation, qui devait avoir lieu l'année dernière à l'occasion du 75e anniversaire du procès de Nuremberg. C'est un concert de la liberté en mémoire de tous ceux qui ont été les victimes de la barbarie nazie. C'est mercredi soir, il reste des places. C'est un concert en tenue de soirée. Donc nous avons reçu des mots sur les réseaux sociaux en disant pourquoi des tenues de soirée à l'Oratoire du Louvre. C'est parce que c'est un concert avec la garde républicaine. Il reste des places. Si vous voulez aider cette association qui est vraiment très importante pour la mémoire, n'hésitez pas, jeudi soir, 20h. Le week-end prochain, nous ne sommes pas là, les pasteurs de l'Oratoire du Louvre, la trésorière et moi-même, puisque nous irons au synode régional représenter l'oratoire du Louvre et réfléchir à notre église, puisque vous savez que l'oratoire du Louvre fait partie de l'église protestante unie. Mais là aussi, dans la salle, vous avez samedi matin, Gilles Castelnau, le pasteur Gilles Castelnau, qui donnera ses cours d'hébreu biblique. À quelle heure, Gilles ? À 10h. Vous vous souvenez, le pasteur Louis Pernaud vous a dit la semaine dernière que c'était important de reprendre vos cours d'hébreu biblique. Donc le pasteur Gilles Castelnau est là à 10h, samedi. Et dimanche, présidera le culte Vincent Hubach, assis là-bas. Le pasteur Vincent Hubach présidera donc le culte avec 1 ou 2 baptêmes. Un baptême. Donc je vous en prie, soyez nombreux. Nous serons à Dourdan, c'est quelque part dans le sud de Paris. Ça amuse Gustave qui sera là aussi avec nous. Voilà, excellent dimanche à tous. C'est le temps de l'offrande. Vous avez vu tous les petits enfants qui étaient là à l'éducation biblique. Il y a plus de 40 familles. Sachez que cette année, nous n'avons demandé aucune contribution aux familles de l'éducation biblique. Toutes ces animations, toutes ces hébreux bibliques, groupes de jeunes, etc., sont vraiment gratuits. Donc si vous pouvez nous aider à continuer à les soutenir, ça serait formidable. Merci à vous.
Avant de nous unir dans la prière d'intercession, je voulais rajouter deux choses, mais peut-être que Aurore va le faire.
Je pense à autre chose, mais je te laisserai faire les autres. Simplement, puisque les parents, beaucoup de parents et de grands-parents sont là, dimanche prochain, nous avons un concert auquel nous tenons beaucoup, qui est, nous soutenons l'association Noël au Hall. C'est une grande tradition de l'oratoire depuis très longtemps. Elle organise un concert à 17h dimanche prochain, donc au profit de cette association Noël au Hall. Et je dis ça pour les parents et grands-parents, parce qu'on a notamment un petit prodige, une prodige de l'accordéon qui va venir jouer ici dimanche à 17h. Donc ça pourrait aussi beaucoup amuser vos enfants ou vos petits-enfants. Donc venez soutenir l'association Noël au Hall dimanche prochain à 17h. Merci.
Alors je voulais rajouter que jeudi prochain, 18 novembre, il y aura bien la pause spirituelle à 12h30. Et je voulais juste dire que les femmes partent au synode, voter, et que les hommes restent à l'église pour prendre le relais. C'est prometteur. Je voulais rajouter encore une chose. Merci au cœur de l'oratoire qui est intervenu à l'instant tout à l'heure. Merci pour le nouveau soliste. Et nous nous unissons dans la prière les uns pour les autres. Éternel Dieu de la vie, nous te prions pour la communauté que nous formons ici même et qui se trouve rassemblée pour ce culte en ce dimanche d'éducation biblique. Nous te confions la vie de notre Église locale. Accorde-nous l'enthousiasme de collaborer joyeusement à l'établissement de ton royaume avec les charismes, les dons que sont les nôtres. Nous te confions celles et ceux qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Et nous voulons déposer à tes pieds, chacun à notre manière, toutes les passions qui nous aveuglent, quelles qu'elles soient. Nous voulons tout déposer à tes pieds afin que tu puisses nous dire dans ton amour infini, mon enfant, relève-toi. Relève-toi, reste debout, continue, avance. La vie est toujours devant. Nous te présentons les personnes de notre Église qui sont hospitalisées ou qui subissent des traitements pénibles. Nous te confions les solitaires, les isolés, les délaissés, les exilés, les prisonniers, et toute personne dont l'équilibre est précaire. Nous te confions les personnes et les familles en deuil auprès de nous et partout dans le monde. Nous te confions les personnes qui ont demandé le secours de notre prière et que nous te nommons dans le profond de notre cœur. Nous te prions pour l'Église universelle, pour les relations interconfessionnelles, les relations interreligieuses. et nous implorons ta bénédiction pour toutes les formes de rencontres et de dialogues. Nous te confions encore notre monde et ses blessures. Nous te confions aussi les peuples et les gouvernements. Accorde, chaque fois que c'est nécessaire, le recul que demande le discernement de chaque situation. Nous te prions enfin d'affermir notre foi et surtout de l'élargir et d'élargir notre regard aux dimensions de ton amour que tu as pour chacun et chacune d'entre nous. Et c'est dans cette confiance que nous te disons la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et recevez maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'amour de Dieu qui dépasse absolument tout ce que nous pouvons imaginer garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ et à la lumière du Saint-Esprit. Amis, frères et sœurs, allez dans l'amour de votre Seigneur. Amen.
Que tout mon cœur soit dans mon chant, qu'il soit brûlant de tes louanges. Je te rends grâce en ta maison, je loue ton nom devant les anges. Tu es venu pour m'exalter, la renommée de ta parole. Adore ta fidélité et ta bonté qui nous console.
Et bon dimanche à tous.